France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Notre série de cette semaine est consacrée à l'horizon, de l'obsession de l'horizon au fantasme de sa disparition. C'est le sujet de cet épisode. Nous avons, dans notre premier épisode, retracé les grands moments historiques qui ont forgé la notion occidentale d'horizon, enjeu tout à la fois existentiel avec la quête des hauts sommets, scientifique et artistique. Mais nous sommes loin d'avoir exploré tous les affects que l'horizon fait naître, aux terreurs antiques suscitées par ce qui se trouve au-delà des bords du monde, a succédé chez les modernes une véritable obsession d'installer un rapport esthétique à cette infinité. Délices et jouissances sont au cœur de beaucoup de démarches, mais il y a aussi l'angoisse, travaillée comme telle par certains peintres et certains cinéastes. Et si l'horizon disparaissait ? C'est là une pensée qui attire tout autant qu'elle effraie. Il en va souvent ainsi des obsessions.
Ce que je cherche en ce moment, c'est qu'il y a de l'infinité partout.
Absolument.
Et il n'y a pas de limite dans aucun horizon. Au contraire, c'est à partir de l'horizon qui commence l'infini. Et... Tandis que nous sommes limités toujours par des horizons physiques.
Nous sommes limités partout par des horizons physiques, déclare ici Salvador Dali en 1978 sur Antenne 2. Est-ce à dire que derrière les horizons physiques, il y aurait le vrai horizon, non physique, parfaitement infini, à traquer sans relâche ? Mais si nous le touchions, ne le perdrions-nous pas dans ce geste même de l'atteindre ? Et si cette perte par le triomphe était la vraie catastrophe qui nous hante déjà ? Obsession, vous disais-je. Bonjour Céline Flécheux.
Bonjour Géraldine Mühlmann.
Vous êtes professeure de philosophie de l'art et d'esthétique à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Vous avez publié aux presses universitaires de Rennes « L'horizon, des traités de perspective au Land Art », vous nous expliquerez, ainsi que d'autres ouvrages sur ce sujet. Vous avez aussi été commissaire, il y a quelques mois, avec Emmanuel Delapierre, de l'exposition « L'horizon sans fin, de la Renaissance à nos jours » au musée des Beaux-Arts de Caen. Bonjour Georges Vigarello.
Bonjour.
Vous êtes un historien de grand renom, vous avez pris pour objet essentiel de vos recherches le corps et tout ce qui lui est relié, représentations et pratiques corporelles. Il semble que l'ici-bas corporel vous ait aussi incité à réfléchir au par-delà lui, qui est encore autre chose d'ailleurs que l'au-delà des religieux et des métaphysiciens. Votre ouvrage de 2022, Une histoire des lointains, entre réel et imaginaire, vient d'être réédité en poche, en point seuil, précisément. Enfin, bonjour Olivier Godin.
Bonjour.
Philosophe de la ville, du cinéma, de l'histoire culturelle, vous êtes maître de conférences à l'École de la nature et du paysage de Blois. Avec vous, nous aborderons la question de l'horizon dans les paysages urbains. Voici pour aborder d'entrée de jeu l'intéressante angoisse que l'horizon disparaisse, quelques lignes du poète Henri Michaux.
Quand on me parlait d'horizon retiré, de mages qui savaient vous enlever l'horizon, laissant visible tout le reste, je croyais qu'il s'agissait d'une sorte d'expression verbale, de plaisanterie uniquement dans la langue. Un jour, en ma présence, un mage retira l'horizon tout autour de moi. Que ce fût magnétisme, suggestion ou autre cause, la soudaine soustraction de l'horizon. J'étais près de la mer, dont un instant plus tôt je pouvais apprécier l'immense étendue et les sables de la plage, me causa une angoisse tellement grande que je n'aurais plus osé faire un pas.
Qu'en dites-vous, Céline Flécheux, vous qui avez beaucoup travaillé sur la peinture, sur l'importance de l'apparition de l'horizon, notamment au moment de la Renaissance italienne? Est-ce que vous pensez qu'en même temps que cette apparition est apparue aussi l'angoisse que l'horizon disparaisse dont parle Michaux ?
Oui, c'est un très très beau texte de Michaux qui est aussi un peu énigmatique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien pourquoi ou quelle est la nature de l'angoisse qu'il ressent. On peine d'emblée à saisir le lien qu'il y a entre ce sentiment d'anéantissement qu'il ressent ou dont il pressent la montée et la disparition de l'horizon. Et ça, c'est très, très intéressant. L'horizon me permet de me structurer, de me situer, de m'orienter dans un espace et également de relier les plans du premier que j'occupe jusqu'au dernier plan sur lequel je projette ma vision. Et ainsi s'étend toute une étendue. Et donc la distance, en fait, est très très importante dans la manière dont j'appréhende l'espace. Si je retire l'horizon, eh bien, je n'ai plus du tout cette distance de moi à moi-même, d'une certaine manière, mais j'ai une espèce de mur qui fait que je ne peux pas du tout me projeter, je ne peux plus avancer, je ne peux plus me déplacer. Et alors, la possibilité même de mon existence est confisquée.
J'entends ce que vous dites, mais puisqu'on dit que l'horizon est apparu de manière systématique et neuve, notamment au moment de la Renaissance italienne, vous nous avez parlé en amont de cette émission, par exemple, du mariage de la Vierge au début du XVIe siècle de Le Pérugin, où on voit effectivement, alors les lointains, on va en parler avec Monsieur Vigarello, c'est-à-dire qu'on a on sent qu'il y a tout un espace profond derrière. Ça a sans doute quelque chose de rassurant, mais à vrai dire, avant, et d'ailleurs dans toute la peinture chinoise, la question de l'horizon nous a expliqué lundi ne se pose pas du tout de la même manière. Et puis nous, toute la peinture médiévale, on avait des tableaux, des murs, comme vous venez de dire, avec des vierges à l'enfant, où il n'y avait pas de fond. Est-ce que c'est toute une mentalité qui a changé, une organisation psychique même?
Oui, c'est tout un nouveau rapport entre les hommes, le ciel, la terre et Dieu qui se produit à la Renaissance. C'est un moment où l'humain est recentré sur lui-même. Voilà. Et donc, on descend des nuages, on descend du ciel, et on se met à observer. Et donc, on observe que l'horizon, on pense que c'est Brunelleschi qui est le premier à avoir, alors c'est pas le premier à avoir remarqué cette coïncidence, mais c'est le premier à avoir fait que cette coïncidence entre la hauteur du point de vue et l'horizon passe dans l'art. Voilà. Et c'est ça, disons, qui change à la Renaissance. C'est-à-dire qu'avant, tout le monde avait vu l'horizon. Les Grecs avaient vu l'horizon. Le mot horizon est grec. Les peintres médiévaux voient l'horizon quand ils vont au bord de la mer, bien sûr. Mais, il ne fait pas partie de la représentation artistique. C'est vraiment à partir de la Renaissance qu'alors, grâce à l'humanisme, grâce à cette manière qu'a l'humain de resituer les choses à partir de lui-même, qu'alors se déploie devant lui un sol très stable. Ça, c'est très important. C'est ce qui explique que dans tous les traités de perspective, il y a autant de dallage, de pavement. Et également, une voûte au-dessus de la tête. Même si on sait, même plus tard, si on sait, avec les révolutions scientifiques, que le monde est infini. Quand on a le sentiment de cette voûte au-dessus de la tête, et d'ailleurs il y a de très nombreuses voûtes qui sont dessinées dans les traités de perspective, oui, pas juste parce que c'est compliqué, c'est parce que, mais parce que comme ça on a l'impression, voilà, on a ce sentiment d'être complètement entouré,
protégé, d'où l'angoisse que ça s'en aille.
Hein. Voilà, d'où l'angoisse que ça s'en aille. Mais je dirais que cette angoisse, elle est là tout le temps. Elle est là. On a parlé déjà de ce renversement du sens du fini dans l'infini et de l'infini dans le fini, du mot horizon au XVIIe siècle. Mais elle est là dès le début, c'est-à-dire que même dans le tableau du Pérugin, le tableau, on avance irrésistiblement, comme vous disiez tout à l'heure sur l'obsession, irrésistiblement vers l'horizon, mais l'horizon fuit. Hein, et donc, on comprend que l'horizon est un phénomène visuel qui ne se donne que lorsqu'il se dérobe. Voilà. Et c'est parce qu'il se dérobe, qu'il se donne. Donc c'est vraiment un phénomène visuel absolument unique et qui représente un défi considérable pour les peintres. Mais donc je dirais que l'angoisse de sa disparition est présente dès le moment où il apparaît.
Vous êtes d'accord, Georges Vigarello?
Ah oui, totalement, totalement. Je trouve que l'horizon, c'est un sujet effectivement passionnant parce que il structure la position corporelle, il donne la manière dont se développe quelque chose qui nous permet de contrôler avec de la droite, de la gauche, de la profondeur. Et c'est évident que l'invention au moment de la Renaissance est absolument centrale. Elle m'intéresse cette invention parce que au-delà de la question de l'horizon, elle porte en même temps sur la façon d'enrichir la présence corporelle, oui, en donnant au mouvement un dedans et un dehors. ce qui n'existait pas auparavant, vous voyez. Ça, c'est une richesse fabuleuse, parce que ça vous donne le sentiment d'un réalisme extrêmement fort. Mais en même temps, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment arriver à penser l'au-delà. Et ça, c'est quand même une question centrale.
L'au-delà qui n'est pas...
L'au-delà de l'horizon.
L'invisible métaphysique.
Exactement.
Qui est très physique, cet au-delà.
Exactement. C'est un physique, mais qui est au-delà. Que se passe-t-il? Et c'est là que l'on trouve... Alors moi, ça m'a beaucoup intéressé. C'est là que l'on trouve la manière dont les antiques pensent ce qui est au-delà et qu'ils ne voient pas, les entraînant à imaginer des corps qui sont complètement différents des nôtres. Mais en même temps, la manière dont ils les imaginent n'est pas complètement étrangère à ce qui est de l'ordre du pensable, c'est-à-dire on va ajouter tel membre par rapport à tel autre, on va retirer tel membre par rapport à tel autre, on va créer du mélange. Vous voyez, c'est intéressant en termes de construction d'imaginaire, ce qui est complètement au-delà.
Parlez-nous du monde antique et la vision du monde qui était celle de nos anciens.
La vision du monde antique, c'est quand même une vision qui, évidemment, est consciente de l'horizon, mais qui se pose la question de qu'est-ce qui se passe au-delà. Et cet horizon est en fait très proche. La Méditerranée, c'est quasiment le cercle dont on ne sort pas.
Donc c'est le cercle, mais c'est pas la sphère. Donc c'est un disque.
Non.
Pour les Grecs, donc
vous avez tout à fait raison, c'est plat. Mais en même temps, que se passe-t-il au-delà, vous voyez? À la crainte absolue d'affronter l'océan. Et ça, les textes que vous lisez lorsque ils essaient de dire ce qui se passe dans l'océan, ce sont des textes terrifiants, avec des monstres qui viennent vous attaquer, etc. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant, parce que on revient à la question de l'angoisse. Mais l'angoisse est double. Un mot. L'angoisse
est double. Continuez, c'est passionnant.
Parce que elle est double. Pourquoi? Parce que ceux qui ne sont pas habitués à la mer et qui viennent sur le bord du rivage, en fait, dans bien des cas, ils sont terrorisés par le fait que ça va très loin. Et donc, ils n'affrontent jamais la mer. Ils ne se baignent pas. On ne prend pas plaisir à rentrer dans la mer, voyez. Donc il y a ça. Et puis deuxièmement, l'angoisse de l'au-delà encore par rapport à la ligne que l'on entrevoit très loin de nous. Donc ça montre un problème absolument complexe que je trouve personnellement passionnant.
Et la Méditerranée,
oui,
elle est plus docile et maîtrisée, par exemple pour les Grecs, que cette chose que vous avez appelée l'océan. D'ailleurs, qu'en savait-il?
Écoutez, elle est relativement maîtrisée. Cela dit, c'est difficile parce que les embarcations des Grecs sont des embarcations relativement plates, donc qui supportent assez mal les chaos de la mer. Mais néanmoins, concernant la Méditerranée, en gros, ils maîtrisent.
D'ailleurs, ils la mettent au centre du monde.
Bien sûr, totalement. Et ils n'arrivent pas à penser l'Afrique, vous voyez ? Ils peuvent pas. Ils n'arrivent pas non plus à penser le Nord. Le Nord, c'est une sorte de barrière de glace absolument infranchissable. L'Afrique, c'est au contraire un lieu de chaleur insurmontable. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Comment arriver à imaginer cela?
Lorsque les choses s'ouvrent, évidemment, on pense à la découverte des Amériques. C'est intéressant parce que on sait que si on part de ce côté-là, on devrait réussir à atteindre l'Asie. Mais en fait, c'est beaucoup plus loin que ce qu'ils imaginaient.
Bien entendu. Autrement dit, Christophe Colomb, lorsqu'il aborde Cuba, il est persuadé d'aborder l'Orient. Parce que l'Orient les fascine. Mais en même temps, je reviens à la Renaissance, le passage de la Méditerranée à l'Est est impossible. Barrage des musulmans, résistance des Vénitiens qui privilégient leur marché, etc. Et donc, du coup, grâce à la transformation des bateaux, grâce au fait de pouvoir maintenir la direction, la boussole, etc., ils affrontent. Voyez. Mais quand ils arrivent, ils sont persuadés de retrouver l'Orient. Ce qui est évidemment une erreur.
Et c'est seulement
au tout début du XVIe siècle que l'on prend conscience qu'il y a un océan derrière, en l'occurrence l'océan Pacifique. Mais ce que je voudrais dire concernant le fait d'aborder, ça renvoie à une autre question. C'est que lorsqu'on arrive, on a du mal à considérer ce que l'on voit comme étant des personnes susceptibles d'avoir un regard objectif. On maintient le regard subjectif.
C'est-à-dire?
Et donc, on imagine par exemple que les Patagons sont immenses, alors qu'évidemment ils ne le sont pas. Vous voyez, on continue de faire exister quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire. Et je trouve ça très intéressant. L'imaginaire nous habite incontournablement. Et on met du temps à ce que finalement, ces êtres qui sont au-delà de l'océan sont des êtres, au bout du compte, mettons 1000 guillemets, normaux.
Olivier Gaudin, vous connaissez bien les villes et les représentations de celles-ci. C'est un lieu où on voit moins souvent l'horizon. Est-ce que néanmoins l'horizon hante les urbains et les peintres et cinéastes de la ville?
Alors, bien entendu, si vous permettez, je voulais juste revenir sur le texte
d'Henri Michaud,
qui est effectivement, comme l'a bien dit Georges Garrido, en fait, évoque des ailleurs. Et il est d'ailleurs l'auteur d'un recueil qui s'appelait Un barbare en Asie, hein, qui renvoie aussi à cette vocation à être déçu quelque part par le voyage, parce qu'on se retrouve dans une position d'étrangeté ou d'altérité qui ne correspond pas ni aux attentes, ni forcément au savoir-faire qu'on peut emporter avec soi lors de ces voyages. Et donc l'horizon qu'il décrit, cette angoisse dont il parle, lui est évidemment plutôt urbain, Henri Michaud, puisque pour répondre à votre question, mais effectivement, elle renvoie à la nécessité vitale, en fait, d'avoir un horizon, et d'avoir un horizon qui soit articulé par des distances, un sol et des différentes échelles que l'on puisse mesurer. La ville étant peut-être un espace qui privilégie aussi ce type d'expérience par la multiplication des échelles intermédiaires, on pourrait dire. Donc, pour le moment, ce que je trouve intéressant à faire résonner votre question avec le texte d'Henri Michaud, c'est revenir à ce besoin d'être placé, d'être positionné dans l'espace, corporellement, et de pouvoir saisir, au fond, par où est-ce qu'il est possible de passer, mais où aussi est-ce qu'on peut, par exemple, trouver une assise, un support pour agir, pour faire des différentes pauses. En fait, le dernier terme du texte d'Henri Michaud, « Je n'aurais plus osé faire un pas hein, en l'absence d'horizon », il nous indique, il nous emmène dans la direction de savoir en quoi est-ce que le besoin d'avoir peut-être pas seulement un horizon, mais des horizons, hein, cette multiplication d'horizons internes qu'il y a dans notre expérience sensorielle quotidienne, n'est pas un besoin vital pour pouvoir s'orienter, pour pouvoir comprendre également par où, effectivement, il est possible de passer, et puis revenir sur les lieux, quelque part. Et donc, pour vous répondre cette fois complètement, être citadin, citadine, c'est aussi à reconnaître des lieux et pouvoir, en utilisant peut-être les acquis d'une forme d'expérience que l'on a développée dans sa propre biographie, s'orienter dans d'autres villes. Ça, je trouve ça intéressant et j'ai un peu travaillé cette question-là. Donc les horizons dans la ville, ils sont presque démultipliés d'une certaine manière et surtout ils sont inquiétants par rapport à certaines étapes chronologiques de l'évolution des villes. On pourra parler de ça. Et Michaud correspond à cette génération-là aussi, hein, qui a traversé le XXe siècle et qui a vu des bouleversements majeurs dans les formes d'urbanisation, les formes d'architecture, des destructions également, de guerres très nombreuses.
C'est peut-être la ville qui est le grand mage dont il parle, qui pourrait nous enlever l'horizon.
Pourquoi pas ? Pourquoi pas, la ville étant... Il y avait une exposition qui s'appelait La Ville Magique, une autre exposition il y a quelques années à Lille, et qui montre comment dans les années d'entre-deux-guerres, donc qui sont les années de formation au fond de Michaud et d'affirmation de son écriture poétique, de son imaginaire, il y a tout un ensemble d'artistes, visuels mais pas seulement, qui travaillent sur ces notions de transformation des cadres de l'expérience, pour citer Walter Benjamin par exemple, et le fait qu'on assiste éventuellement... Alors, une accélération, une intensification des informations que l'on perçoit lorsqu'on marche dans la ville. Donc, dans ce contexte-là, on pourrait tout à fait s'intéresser à ce que c'est qu'un paysage urbain, qu'un paysage de l'expérience, hein, un horizon sensible démultiplié par des relations entre le proche et le lointain. Et est-ce que la ville, lorsqu'elle est conçue à des échelles industrielles, permet au fond d'articuler encore l'échelle du corps humain? Voilà une préoccupation importante pour cette période-là.
Où se trouve l'horizon ? Dans mon champ visuel, dans une peinture, dans une séquence de cinéma, ça peut générer des vrais dogmes. Il faut qu'il soit là et pas là, en haut, en bas. Écoutez cet extrait assez célèbre, me semble-t-il, en tout cas plusieurs personnes m'en ont parlé, du film de Steven Spielberg de 2022, The Fablemans, le jeune Steven Spielberg, qui se met lui-même en scène, qui veut faire du cinéma, rencontre le cinéaste John Ford, interprété par David Lynch. Écoutez ce que lui dit Ford.
Alors, comme ça, tu veux t'embarquer dans le métier?
Oui, c'est ça, monsieur.
Pourquoi?
Monsieur Ford,
qu'est-ce que tu connais à l'art, toi?
J'adore tellement vos films.
Non, l'art. Tu vois le tableau sur le mur, là? Va te mettre devant. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Décris-le-moi.
Ah, d'accord. Alors, il y a deux gars, et ils sont à cheval, et ils sont en train de chercher un truc, donc peut-être qu'ils sont éclairés.
Non, Non. L'horizon, où est-ce qu'il est?
L'horizon?
Il est où?
Il est en bas.
C'est exact. Mets-toi devant celui-là, maintenant. Alors?
Oui, alors il y a 5 cow-boys, il y a peut-être des Indiens.
Non. Où il est, l'horizon, bordel?
Il est là.
Où ça?
En haut du tableau, monsieur.
Voilà, viens par ici. Alors, écoute bien ce que je vais te dire. Quand l'horizon est en bas du tableau, c'est intéressant. Quand l'horizon est en haut du tableau, c'est intéressant. Quand l'horizon est au milieu, c'est mortellement chiant. C'est tout. Bonne chance à toi. Maintenant, fous le camp de mon bureau.
Oui.
Céline Flécheux, qu'est-ce qu'il lui dit là, Ford, je veux dire, au jeune futur cinéaste Steven Spielberg? Qu'est-ce qu'il lui dit exactement avec cette histoire d'horizon?
C'est un passage merveilleux, hein, très drôle et puis très, très, très puissant parce qu'il a tout à fait raison. Il lui dit déjà, où places-tu l'horizon dans le cadre? Tu as un cadre, ne l'oublie pas, il n'y a pas déjà l'histoire. Il fait un petit peu ce que faisait Alberti, d'une certaine manière. Il trace la ligne à partir de laquelle on peut structurer l'espace, dans lequel aura lieu l'histoire. Les cow-boys, les Indiens, les tueries, les massacres, les chevaux. Après, ce sera après. On veut déjà dans quel espace ça se situe. Et quel sentiment ça déclenche chez le spectateur, si l'horizon est placé très bas ou au contraire s'il est placé très haut. Ça change absolument tout. Très bas, on a l'impression justement d'un très grand paysage à parcourir, d'une espèce de liberté ou qu'il y a quelque chose à conquérir. Alors que quand il est situé très haut, on avait montré le tableau de Manet, l'évasion de Rochefort
dans l'exposition à Caen,
et on voit qu'un horizon situé très 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 haut. Et donc cette évasion de Rochefort, ce communard qui fuit le bagne de la Nouvelle-Calédonie, rejoint un navire au loin, et le navire est placé très très haut sur l'horizon. Et donc tout le tableau devient... s'identifier à la hauteur de la mer. Donc, on a une mer qui devient complètement verticale, comme une espèce de mur. Et donc, on peut basculer comme cela les plans, ou bien vers l'horizontale, ou bien vers les verticales. Et c'est tous ces jeux de hauteur de l'horizon qu'ont privilégié les artistes.
Vous trouvez aussi que l'horizon situé au milieu, c'est mortellement chiant, comme dit le personnage de Spielberg?
Non, je crois pas que ce soit mortellement chiant, pas du tout. Non, je crois qu'il faut qu'il caricature pour le jeune Spielberg, voilà. Et puis qu'il lui fasse prendre conscience de cela. C'est vrai que dans l'éducation artistique, pour faire prendre conscience de quelque chose, peut-être qu'on fait semblant qu'il n'est pas tout à fait à la hauteur des yeux, mais on le place très bas dans le cadre. Enfin, il essaye là de jouer sur les différentes hauteurs de la vue pour qu'ils comprennent bien que c'est le cadre quand même qui vient accueillir cet horizon et qu'à partir de là, tout peut se déployer.
Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, Georges Vigarello, de ce conseil de Ford au petit Spielberg?
Écoutez, je suis très sensible à ce qui vient d'être dit sur le problème de la distance et sur le problème de la proximité. Et effectivement, c'est plus excitant de jouer sur l'un ou sur l'autre par rapport à la banalité du fait de voir au même niveau. Voilà ce que je veux dire. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'éloignement. Autrement dit, par exemple, je suis très sensible au tableau de Gaspard Friedrich, l'homme de dos, qui voit un infini devant lui. Et cet infini devant lui, ça m'intéresse beaucoup. Cet infini devant lui le provoque. Autrement dit, ça revient vers lui et ça approfondit dans une certaine mesure sa pensée. C'est l'invention d'un nouveau type de réfléchir sur soi et de faire, au fond, germer quelque chose qui est d'ordre de la pensée. Je trouve que c'est très intéressant.
Moi, j'ai l'impression que dans vos recherches, vous avez fait varier la ligne d'horizon. En effet, elle est ou tout en bas, ou tout en haut, mais pas au milieu, au sens où vous travaillez les corps de très près. Et là, on peut dire que la ligne d'horizon, elle est tout en haut, mais on est sur ce qu'il y a devant les corps.
Oui, oui.
Et puis, tout d'un coup, alors c'est peut-être ancien dans votre histoire, je ne sais pas, mais vous sortez un livre sur les horizons, et là, cette fois-ci, la ligne d'horizon est tout en bas, puisque les lointains sont votre objet. Vous parlez comme Ford dans votre recherche.
Ben, je suis très très sensible à ce que vous dites, parce que personnellement, tout d'un coup, la question est venue sur le mode suivant, qu'est-ce qui se passe ailleurs? Vous voyez, qu'est-ce qui se passe plus loin? Comment imagine-t-on ce qui se passe plus loin? Mais pour continuer sur cette question, moi, je suis très frappé par un autre problème. Qu'est-ce que j'appellerais, alors peut-être en parlerons-nous et peut-être j'interviens trop tôt dans le propos, mais je suis très frappé par le problème du paysage. Comment construire, voyez? Et je reviens à ce que nous disions sur l'Antiquité, il n'y a pas de paysage. Lorsque vous lisez les textes d'Hérodote, etc., les lieux sont juxtaposés. Et c'est seulement très lentement que les lieux se mettent à s'organiser. Je dirais, mais c'est même, la Renaissance, oui. Mais le 18e, quand vous lisez Bougainville, c'est un des premiers vraiment à orchestrer le paysage tel qu'il le voit chez les Tahitiens. Et ça, c'est un superbe travail.
Vous ne pensez pas que chez Homère, par exemple, quand, prenons une scène classique connue, Ulysse qui sort de l'eau, oui, nu, mais... qui effraie les nymphes, il y a la mer derrière lui, écoutez, il arrive, non?
Oui, je ne suis pas un spécialiste de la Grèce, pour tout vous dire, hein, mais je n'ai pas ce sentiment. Oui. Et vraiment, quand vous lisez les textes, même lorsqu'ils imaginent l'Afrique, il y a ça, et puis à côté, et puis à côté, et puis à côté. Oui. Et ensuite, ça s'orchestre. Et c'est très intéressant, la façon dont ça s'orchestre. Parce qu'à ce moment-là, vous distinguez effectivement une droite, une gauche, et surtout un bas, un moyen et un haut. Ça, c'est extrêmement intéressant.
Oui, c'est très intéressant. Mmh. Et peut-être que Hannibal a fait tellement peur...
Ah, c'est possible.
Parce qu'il maîtrisait les montagnes qui étaient... À côté, un peu inquiétante, il y a vraiment un enjeu de la maîtrise. Vous pensez, Olivier Gaudin, que la question de la maîtrise de ce qui se passe là où nous ne sommes pas, qui renvoie à l'angoisse de l'horizon évoquée au début de cette émission, est en effet, dans chez les auteurs qui vous intéressent, vous intéressez au cinéma, l'extrait de Spielberg, c'était du cinéma. Est-ce que c'est tout ça vous parle, comme chercheur?
Oui, bien évidemment. En fait, la question de la maîtrise, elle est intéressante comme angle de vue, je pense, pour écouter l'extrait que vous avez proposé, parce que il y a dans le cinéma de Spielberg, par exemple, voilà, des parties pris qui sont pas les mêmes que dans d'autres cinémas, comme Antonioni, Godard ou d'autres. Et finalement, le rapport au cadrage, il porte déjà des choix esthétiques et des choix de représentation du monde par rapport à ce que peut viser en fait une œuvre cinématographique. Et donc ce que je trouve intéressant évidemment sur c'est une leçon de photographie en fait, avec le haut, le bas, où est-ce qu'on place l'horizon dans le cadre, c'est de chercher à installer des tensions, une dynamique à l'intérieur d'un cadrage pour éventuellement installer une narration. Mais cette narration, est-ce qu'il faut qu'elle soit, pour le dire simplement, pleine d'histoire au pluriel, ou est-ce qu'il faut qu'elle soit un peu plus vide, de manière à laisser entrer quelque chose, à laisser arriver quelque chose. Et donc s'inspirer davantage, pour simplifier, disons, le propos, mais d'une esthétique peut-être plus documentaire et plus attentive aux effets de réel, finalement, qui correspondent aussi à un cinéma du réel, c'est-à-dire un cinéma qui va se placer en position d'observation, potentiellement d'enquête, mais laisser davantage peut-être aussi de travail aux spectateurs et aux spectatrices elles-mêmes pour... entrer dans ce que le cinéma peut nous faire penser du monde.
Alors nous avons parlé de l'angoisse, de l'horizon, parlons de sa jouissance maintenant. Les affects peuvent se transformer. Et merci à Georges Vigarello de nous avoir conseillé un texte de Alexander von Humboldt de 1808. Alors il est naturaliste. Von Humboldt, c'est le frère du Humboldt qui a créé l'université de Berlin. Voici un extrait de la préface de la première édition de ses Tableaux de la nature.
C'est en hésitant que j'offre au public une série de points de vue résultant du spectacle grandiose de la nature sur l'océan, dans les forêts de l'Orénoque, dans les steppes du Venezuela, dans la solitude des montagnes du Pérou et du Mexique. Contempler la nature de haut, mettre en relief l'action combinée des forces physiques, procurer à l'homme sensible des jouissances toujours nouvelles par la peinture fidèle des régions tropicales, voilà mon but. Les beautés et les richesses qui environnent l'observateur font naître en lui une foule d'images partielles qui troublent la sérénité et l'effet général du tableau. S'adressant aux sentiments et à l'imagination, le style dégénère facilement en une prose poétique. Puissent mes tableaux de la nature faire participer le lecteur à la jouissance qu'un esprit sensible et contemplatif éprouve en présence de la création. Partout, j'ai fait sentir l'influence éternelle que le physique exerce sur le moral et sur les destins de l'humanité. C'est aux âmes attristées que de préférence s'adressent ces feuilles. L'homme qui a échappé aux orages de la vie aimera me suivre dans le massif des forêts, à travers les déserts sans bornes et sur la chaîne élevée des Andes.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Nous parlons de l'horizon cette semaine et aujourd'hui des affects qu'il suscite. Il y a de la jouissance, il y a de l'angoisse. L'angoisse que l'horizon disparaisse à peine découvert par l'Occident en peinture, singulièrement au moment de la Renaissance italienne. Quelles sont les raisons en fait pour lesquelles ce texte vous intéresse, ce texte de Alexander von Humboldt où il est en question de la jouissance des lointains? Georges Vigarello.
Écoutez, ça m'intéresse pour plusieurs raisons. Je trouve que c'est un texte absolument magnifique et c'est un texte qui malheureusement a tendance à être oublié. Alors, il est magnifique pourquoi ? D'abord parce que, quasiment pour la première fois, l'auteur essaie de montrer comment ce qu'il voit résonne en lui et le concerne de manière absolument profonde en interpellant à la fois sa sensibilité et ce qu'il appelle son âme. Autrement dit, on est quasiment dans une période romantique où ce que l'on voit nous affecte. Et à ce moment-là, nous amène au fond à réfléchir davantage sur nous-mêmes, à approfondir, et ça renvoie par certains côtés, évidemment, me semble-t-il, à la peinture de Friedrich. Mais c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que Humboldt est un des premiers à essayer d'avoir une vision qui dépasse largement la simple limite des continents. C'est quelqu'un qui se pose la question, que se passe-t-il entre l'Amérique et l'Afrique? Que se passe-t-il dans la ligne des températures? Comment se fait-il que la ligne des températures n'est pas horizontale? Qu'est-ce qui fait que l'Afrique est plus chaude par rapport à l'Amérique? Comment les courants jouent-ils? Comment les montagnes jouent-elles le rôle d'obstacle?
Oui.
Comment les terrains permettent pour l'Afrique le fait que la chaleur envahisse à partir de l'Est? Ce sont des questions absolument magnifiques et totalement fondamentales. Et c'est quelqu'un qui, de surcroît, ne se contente pas de dépasser l'horizon des continents, mais tente de trouver, à travers les continents, des lignes qui, jusque-là, n'étaient pas évoquées. Je veux dire par là, la ligne des volcans, par exemple. Mm-hmm. C'est l'un des premiers qui commence à montrer comment la ligne des volcans traverse l'Amérique et suggère une sorte de fente fondamentale qui traverse le continent. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui, concernant toujours les volcans, revisite totalement la façon dont les volcans européens sont interprétés. Jusque-là, on s'en tenait à l'Etna et au Vésuve. Or, lui, il montre comment les volcans à l'intérieur de la Méditerranée elle-même créent également quelque chose qui est dans l'ordre de l'abîme.
Oui.
Et donc, c'est un des premiers, finalement, à dépasser ce que l'on considère comme l'horizon, en jouant sur plusieurs horizons.
Que font l'horizon pour un scientifique de cette ampleur? C'est quelque chose qu'il faut faire disparaître par la connaissance.
Oui, absolument, c'est très bien là, je suis d'accord avec votre formule.
et comme beaucoup de scientifiques, face à la nature qu'ils découvrent, il y a de l'étonnement et de la jouissance. Le mot est employé deux fois dans ce texte.
Bien sûr, bien sûr. Mais vous savez, c'est quelqu'un d'extraordinaire hein, qui s'est investi physiquement dans la manière dont traverser les terrains, etc.
Il a escaladé
Chimborazo, 6300 mètres de haut. Il pose une autre question qui est liée à ce que nous disions, mais autrement. Comment se fait-il que des lignes à l'intérieur même des falaises signifient le fait que d'une falaise à l'autre, d'un continent à l'autre, il y a une liaison? Et que peut-être ces continents se sont séparés. Ça, c'est magnifique.
Ouais. En plus, il a eu raison, non? Je me trompe?
Comment?
Son intuition était juste.
Bien sûr, son intuition est parfaitement juste, évidemment.
Ouais. Alors, comment, Céline Flécheux, vous réagissez à ce texte d'un scientifique? D'un scientifique, Humboldt, qui évoque son plaisir extraordinaire mais quand même, vient de nous le dire Georges Vigarello, à vaincre l'angoisse de l'horizon. Il y a toujours quelque chose derrière, on s'y retrouve, la science peut progresser, etc. La peinture a-t-elle autant ce calme, cette jouissance? ou bien préfère-t-elle l'angoisse, ou mêle-t-elle les deux différemment? Comment, avec vous qui avez été commissaire d'une exposition sur cette question, une exposition de peinture, vous réagissez à ces enjeux?
Le texte est vraiment magnifique, hein, et puis on voit que le titre que donne Humboldt à son texte, c'est justement « Tableau de la nature ». Donc il s'agit de... toujours de ces tableaux. Peut-être une chose qui fera le lien avec ce qui a été dit précédemment. Il est vrai que avant la Renaissance, ce qui était loin, ce qui était derrière l'horizon, était considéré d'une autre nature. Mais grâce à ce moment, disons, de l'humanisme, alors, et encore plus au XVIIe siècle, alors les choses ne sont plus d'une autre nature. Ce qu'il y a derrière l'horizon ressemble à ce qui est devant moi. Voilà. Et ce qui fait que je peux avancer, parce que ce qui est très important dans l'horizon, c'est le fait qu'il se déplace toujours avec nous. Voilà. Et le tableau est un moment, disons, d'un arrêt, d'une suspension. Mais même dans le tableau reste la suggestion du déplacement et de la mobilité. Et le fait de pouvoir avancer vers l'horizon, de savoir que derrière l'horizon, il n'y a pas un gouffre, il n'y a pas un mur, il n'y a pas un monstre une béance qui va venir vous dévorer, comme c'est le cas dans la Méditerranée d'Ulysse, eh bien, ça montre, par rapport aux affects, que l'horizon exprime une certaine confiance dans le monde. Voilà, on a confiance, c'est-à-dire que c'est cet affect-là qui est très important à la Renaissance. On prend confiance, on sait que voilà, on ne tombera pas sur des choses atroces, ignobles, en tous les cas qui n'auront plus de rapport avec ce qui est ici et maintenant. Donc c'est cette manière de tisser le rapport entre l'ici et maintenant et le ailleurs, là-bas, plus loin, dans le futur. C'est vrai que Minkowski, par exemple, hein, dans un ouvrage, explique que finalement, l'avenir est peut-être la dimension temporelle la plus sûre, parce que finalement,
pas toujours l'angoisse, hein.
on peut s'appuyer dessus. Voilà. Et c'est vrai que dans la peinture, on voit très bien que l'horizon est un repère, que l'horizon est une espèce de rampe sur laquelle on peut s'appuyer, on appuie le regard. Il y a des espèces de géants chez Poussin qui manquent de s'appuyer sur la rampe. Mais c'est vrai que si on s'appuie sur la rampe, alors le paysage regagne le chaos, retombe dans l'indéterminé et dans l'infini, dans une espèce de magma où les éléments ne sont plus séparés. L'horizon permet de séparer les éléments, c'est l'eau, la terre, le ciel, voilà, tout cela est séparé, mais est joint dans le même mouvement.
C'est une transition toute trouvée, particulièrement adéquate pour évoquer l'extraordinaire maîtrise qui se trouve dans un texte de Léonard de Vinci sur la perspective. C'est dans ses carnets qu'il a rédigé entre 1487 et 1508. Le lecteur de cet extrait est Vincent Schmitt.
Il est une sorte de perspective que j'appelle aérienne, parce que les différences de l'atmosphère permettent d'évaluer les distances de divers édifices terminés à leur base par une seule ligne, comme serait l'aspect d'édifices au-delà d'un mur et qui, tous vus au-dessus du mur, semblent avoir la même dimension. Et si en peignant tu veux figurer l'un plus loin que l'autre, tu devras faire l'air un peu plus dense. Tu sais que vu à travers un air d'uniforme densité, les choses les plus lointaines, telles les montagnes, en raison de la grande quantité d'atmosphère interposée entre ton œil et elles, te sembleront azurées, presque de la couleur de l'atmosphère quand le soleil est à l'orient.
Calme et maîtrise dans ce texte de Vinci, c'est une question de traitement de la couleur, c'est une question d'air. Tout va bien, l'horizon n'est pas l'angoisse que les romantiques vont peut-être ressusciter. Vous êtes d'accord, Céline Flécheux ?
Oui. Et on voit que, alors chez Léonard de Vinci, donc vous aviez déjà
donné un extrait lundi. Oui.
On voit qu'il y a de très très nombreuses réflexions sur l'horizon. Donc il est clair que l'horizon, ce n'est pas du tout accessoire dans la peinture. D'ailleurs, et dans le cinéma non plus, comme on le voit avec l'extrait de Spielberg. C'est vraiment fondamental. Il n'est pas un objet, ce n'est pas un objet parmi d'autres objets du paysage. Voilà, c'est quelque chose qui est insaisissable et saisissable dans le même temps. Léonard de Vinci pose une question très juste, c'est-à-dire que non seulement il ne se donne pas toujours comme une ligne, mais comme une espèce de zone un peu atmosphérique. Mais pour donner à sentir les lointains de cette zone, alors il faut savoir peindre... Tous ces brouillards, toutes ces brumes, toutes ces atmosphères, toutes ces nuées qu'il y a entre l'observateur et le dernier plan du lointain. Ce qui pose la question fabuleuse de la couleur de l'horizon. Quelle est la couleur de l'horizon? Qui est déjà quelque chose qui est posé chez Alberti, où il dit cette ligne blanche que nous voyons à l'horizon. Et on sait par les études qu'il a fallu plus d'un siècle, c'est-à-dire même Léonard, quand il écrit ce texte, doit encore se battre contre ses contemporains pour expliquer que non, les couleurs diminuent à l'horizon, les couleurs perdent de leur éclat à l'horizon et qu'il y a une espèce de dégradation de la couleur à l'horizon. Ce qu'il a fallu très longtemps en fait pour saisir. Et ça, c'est très important, ça montre que ce qui se passe quand on commence à regarder l'horizon... Ah, on commence à regarder le ciel, on commence à regarder la terre, on commence à regarder les détails du brin d'herbe en face de soi, on commence à regarder la manière dont la lumière tombe à tel moment sur tel paysage. Et tout cela peut varier. Hein. C'est vrai que Léonard de Vinci, on dit souvent que c'est l'art de la variation, hein, et on le voit particulièrement dans ce texte.
Alors j'aimerais maintenant qu'on évoque les paysages urbains, et j'avoue que j'ai beaucoup de curiosité... À l'égard de ce que vous allez en penser, Georges Vigarello, vous qui avez travaillé sur le corps et les corps urbains, c'est un sujet en soi. La ville change nos corps et la question de l'horizon, comme par hasard, elle aussi se modifie beaucoup avec les paysages urbains.
Évidemment. Mais si vous me permettez, je reviens un instant sur le texte de Léonard, parce que je trouve que c'est un texte, aussi bien que celui de Humboldt, c'est un texte absolument magnifique. Parce que ça vient d'être très bien dit. Qu'est-ce qui s'est inventé avec Léonard? C'est au-delà de la question des lignes. Oui. Que l'on a tendance à interpréter comme étant le cœur de l'invention de la Renaissance. Au-delà d'invention des lignes, il y a une invention d'un terme nouveau qui a été évoqué, qui est l'atmosphère. C'est absolument extraordinaire, parce que c'est un vrai travail à ce moment-là, sur la manière d'essayer de rendre du brumeux dans la peinture. Et vous voyez très bien que, même lorsque les Romains, je pense à des mosaïques romaines, même lorsque les Romains parviennent à présenter un tableau de face, je pense au quadrige par exemple, oui. Quadrige présenté de face, c'est quand même un véritable défi, parce qu'à un moment-là, il faut montrer que le quadrige vient vers vous. Même lorsque les Romains, donc, inventent quelque chose, vous avez le sentiment que les chevaux et le cocher sont exactement au même niveau. Parce qu'il y a un problème de dimension et de ligne, mais parce qu'il y a surtout un non-rendu de quelque chose qui est de l'ordre de l'atmosphère, etc. Or, l'immense invention de Léonard, c'est cela. Et c'est une véritable originalité. Donc, je reviens maintenant... Je reviens sur votre question concernant la ville. Écoutez, je crois que ce qui m'intéresse beaucoup personnellement concernant le mouvement, c'est que ce qui change dans la manière dont le mouvement est rendu, c'est un temps où il existe de face... Alors, je reviens en arrière très loin, ne m'en veuillez pas. Mais, par exemple, les vases grecs ou les argiles grecques représentent les coureurs exactement au même niveau, sur le même bandeau. Alors, la qualité quand même de la restitution, c'est que les mouvements sont rendus de façon extrême. Autrement dit, les jambes se lèvent très haut, les bras vont très loin, mais tout se déroule exactement sur le même plan. Or, qu'est-ce qu'invente la Renaissance ? Le fait que le mouvement ne se déroule plus sur le même plan. Et qu'est-ce qu'invente la ville sans horizon? C'est le fait effectivement qu'il y a une profondeur. Il y a une profondeur qui est celle de la présence du cube, si je puis dire, voyez? Et ça suraccentue l'activité, et je trouve que c'est très important.
Vous êtes d'accord, Olivier Gaudin, de dire que la ville a changé la question du mouvement? décors.
Alors, tout dépend de quelle ville on parle, de quelle période historique on parle. Donc, ça serait, il faudrait beaucoup de temps pour vous répondre à cette question-là. Mais ça m'évoque peut-être en écho aussi au texte à la fois de Léonard et de Humboldt que vous aviez choisi. Il y a un texte très célèbre de Michel de Certeau qui décrit en fait ce qu'on voit depuis le haut du World Trade Center à l'époque où il existait encore à New York, à Manhattan, et qui contraste cette expérience où tout devient lisible parce qu'on le voit d'au-dessus et qu'on est dans une expérience quasi cartographique en fait en position de surplomb, un peu comme sur les logiciels de cartographie que nous utilisons aujourd'hui. Et finalement, il y a une sorte de confort comme ça, de distance. Et puis, ça contraste avec la ville telle qu'on l'éprouve en marchant, lorsqu'on est au bas de la tour et qu'on s'engage dans la rue, sur les trottoirs, et où tout à coup on est enveloppé par la ville. Et l'horizon, de ce point de vue-là, il faut à tout prix le penser autrement qu'uniquement sur un modèle de visuel, de distance et de l'héritage pictural, certes très important, mais il est aussi un horizon sonore, il est aussi un horizon voilà, qui va affecter les manières de marcher et de s'orienter par d'autres sens que la seule vue.
Vous allez nous parler de Michelangelo Antonioni, qui en 1964 a réalisé un film qui s'appelle Le désert rouge. Pour introduire ce moment, j'aimerais qu'on creuse un peu ce qui vous a intéressé dans ce film d'Antonioni. Pour commencer, donc, voici une archive d'Antonioni juste à la sortie du film. C'était sur l'ORTF en novembre 1964.
Moi, je ne suis pas contre le monde moderne. Là, ce milieu industriel symbolise un peu le progrès. Et on ne peut pas être contre le progrès, ce serait inutile en plus. Mais moi, je trouve qu'il y a un côté même de beauté dans ce monde. Il y a, par exemple, dans une route qui part de Ravenne pour aller à la mer, à Porto Corsini précisément, dans laquelle on voit un demi-tour de l'horizon complètement couvert d'usines, de cheminées, de raffineries, des choses comme ça. Et l'autre côté, au contraire, est complètement couverte d'une pinède. Moi, je trouve que cette ligne riche, représentée par les usines, est beaucoup plus belle, même esthétiquement, de la ligne verte, mais uniforme, de pinède. Parce que derrière les usines, on sent l'homme, elles sont vivantes. Tandis que derrière les verres d'épinède, il n'y a rien, il y a les animaux, il y a un monde sauvage qui m'intéresse moins. Voilà.
Yeah.
Vous aussi, Olivier Gaudin, ça vous intéresse moins, les lignes très franches verte des paysages de campagne, c'est la ligne d'horizon, que la complication de la question de l'horizon dans la ville.
Je ne dirais pas que ça m'intéresse moins, je dirais que ce qui est important, c'est de comprendre leur entrelacement et leur interdépendance en réalité. Ce que montre Antonioni dans cet extrait admirable, on entend d'ailleurs le travail sonore sur le film, dans ce que vous avez
diffusé. Oui, on a mis derrière, grâce à Nicolas Berger, des extraits du film Le désert rouge. D'ailleurs, je veux bien, si oui, vous en êtes d'accord, que vous nous parliez un tout petit peu de ce film.
Absolument. Alors, Le désert rouge, c'est un film qu'Antonioni réalise en 64, qui correspond à une période déjà de maturité pour lui. Il fait partie d'un ensemble de films qu'on appelle parfois la tétralogie d'Antonioni des années 60, qui commence avec La Ventura, qui est sans doute le plus célèbre, puis qui est suivi d'un film qui s'appelle La Notte et la Nuit, et puis encore L'Éclipse. Donc ils sont à chaque fois tournés au fond dans des espaces. Alors La Ventura commence à Rome, puis s'exile dans des espaces beaucoup plus ouverts et sauvages. Mais ensuite, donc La Notte est tournée à Milan, et L'Éclipse à Rome, y compris dans des quartiers qu'on ne voit pas forcément toujours lorsqu'on pense à Rome. Et puis avec le désert rouge, en fait, il choisit d'aller à Ravenne, mais de montrer absolument pas la ville de Ravenne, de montrer en fait les franges, les bords, la zone industrielle de Ravenne. Donc il la nomme dans l'extrait qu'on a entendu, Porto Corsini, c'est-à-dire en fait la zone industrielle au portuaire qui est à l'arrière de Ravenne et qui pourrait être tourné, j'allais dire, au Havre aujourd'hui, ou voilà, dans bien des endroits différents. Et effectivement, il y a tout un travail sur la perception du paysage qui, au fond, devient active. Et on pourrait presque dire que c'est un des premiers films écologiques, ce qui n'est pas écologiste, hein, c'est très différent, mais qui montre le milieu de vie et qui réfléchit aux relations entre le personnage principal, en l'occurrence joué par Monica Vitti, et cette maladie un peu mystérieuse qu'elle a. On n'aura pas narrativement de résolution de cela, et son rapport à l'instabilité en fait de son milieu de vie et des paysages qu'elle perçoit. Et en tant que spectateur, on est plongé par les choix esthétiques de ce film, qui est son premier film en couleur également d'Antonioni, dans une image où tout à coup, donc les flous, les focales sont déréglés volontairement. Il emploie beaucoup le téléobjectif pour voir d'assez loin. Et puis tout à coup, l'écran, le cadre va être traversé justement par des énormes navires industriels, des cargos, ou bien des fumées d'usines, hein, des cheminées qui émettent également des sons extrêmement stridents. Et donc le personnage est en fait assez vite désorienté dans cet espace-là, et confronté à d'autres types de réactions des autres personnages, son mari, son amant passager, etc., qui eux sont plutôt embarqués dans le système productif, ingénieurs, etc. Et elle, le spectateur, est plutôt évidemment tiré vers ça, va être invité à percevoir autrement le paysage. Donc Le désert rouge, c'est un titre assez énigmatique d'ailleurs.
Oui, ça ne peut rien dire de particulier.
Ça peut vouloir dire beaucoup de choses sur des registres plus métaphoriques, mais voilà, que reste-t-il à un paysage qui va être entièrement empli, et non pas forcément de formes urbaines constituées, puisque la ville de Ravenne, elle existe. Il y a la tombe de Dante à Ravenne qu'on peut aller visiter, il y a Alberti qui a construit, etc. Mais de choisir de déplacer la caméra avec un regard beaucoup plus documentaire. Antonioni connaissait parfaitement cette région, puisque lui-même était originaire de Ferrare, donc qui est à quelques dizaines de kilomètres. C'est vraiment un choix de montrer autre chose, et du côté de l'atmosphère, justement, travaillée par les pollutions industrielles, travaillée par le doute vis-à-vis de ces transformations-là, qui sont aussi des facteurs de beauté.
C'est la dernière minute de cette émission. Je vous la laisse, Georges Vigarello. Si vous avez envie de conclure sur quelque chose.
Écoutez, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, en particulier dans la peinture, c'est la façon dont certains peintres, je pense aux fauves en particulier, arrivent à restituer une ambiance uniquement en travaillant sur la couleur, et sans qu'il y ait nécessairement de ligne d'horizon. Et c'est un travail très subjectif, donc personnellement, je voudrais conclure sur le triomphe de la subjectivité.
Nous n'irons pas plus loin, te dit le capitaine. Trop d'obstacles aujourd'hui pour gagner l'horizon. Des baleines épuisées gémissent sur la grève. Leur sang couvre des bouches comme autant d'hameçons, comme autant de collines occultant l'horizon, de crêtes insensibles à la datio des plaines. Je suis vraiment navré, te dit le capitaine, et tu sens qu'il dit vrai et qu'il a le cœur bon. Dès lors la bouche fermée d'une femme au harpon qui entre dans tes murs et saigne les baleines, te fait des mois durant dédaigner l'horizon, et lorsque tu le croises snober le capitaine. Quand tu rentres chez toi, tu te dis qu'il fait bon. Le mensonge est partout, infiltré dans tes veines. Tant tu aimes goûter au sang de la baleine qui déborde des lèvres de la femme au harpon. Mais un jour sur ta manche, tire le capitaine, les yeux exorbités, il te dit repartons. Il est temps de sortir du sommeil des reines, car nul ne vous attend autant que l'horizon. C'est l'aube nord qui t'espère, l'Inlandis qui t'appelle, la Sierra Nevada qui la nuit crie ton nom. Et c'est la grande bleue qui rehausse le ciel. Chacun d'eux te réclame et t'offre l'horizon, mais celui-ci t'échappe, stoppé dans son...
C'est Dominique A que vous entendez, L'horizon, une chanson de 2006 sur un album qui porte le même nom, L'horizon. Merci beaucoup Céline Flécheux, Georges Vigarello, Olivier Gaudin. Les références de vos travaux sont précisées sur le site de cette émission. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il s'intéresse aux bonnes et aux mauvaises intentions. Voici le pourquoi du comment.
comment peut-on juger des intentions ? L'intention, en philosophie, est une notion un peu mystérieuse. C'est le rapport du sujet à ses actions qui permet de le juger pour cela, pour le meilleur et pour le pire. En philosophie théorique, c'est le rapport de la conscience au monde. Mais en fait, dans la vie pratique, c'est beaucoup plus simple. Cela se voit de l'extérieur. Nous pouvons juger de la bonne ou de la mauvaise intention de quelqu'un à notre égard. Par exemple, quelqu'un qui nous veut du bien ou quelqu'un qui nous veut du mal. Nous le savons tout de suite. Jean-Jacques Rousseau, dans l'Émile, l'a dit définitivement, et cela transforme notre jugement moral. Il l'a dit, ce qui nous nuit, on le fuit. Ce qui nous veut nuire, on le hait. Ce qui nous fait du bien, on le désire. Ce qui nous veut du bien, on l'aime. Ainsi, nous reconnaissons quand un acte nous fait du bien ou du mal, s'il est promu par une intention de nous faire du bien ou du mal de la part de l'autre. L'acte sans intention suscite le fait d'aller pour ou contre. L'acte de nous vouloir du bien ou de nous vouloir du mal suscite l'amour ou la haine. Nous reconnaissons les intentions, nous les jugeons en profondeur. Nous reconnaissons l'amour ou la haine, l'intention de servir ou l'intention de détruire. Pourtant, bien entendu, il est difficile de juger des intentions. Les philosophes rationalistes, par exemple Socrate lui-même, qui dit que nul n'est méchant volontairement, pense que les intentions ne sont jamais complètement mauvaises. C'est une erreur d'intention, une erreur de calcul qui fait que les intentions sont toujours celles de faire le bien, mais qu'on peut se tromper de bien. Pourtant, il faut admettre, en effet, qu'il y a au moins relationnellement, peut-être pas dans l'absolu, des bonnes et des mauvaises intentions entre nous. Il y a des intentions, encore une fois, de produire du bien ou du mal, d'être bon ou méchant. Nous pouvons, nous devons juger des intentions depuis ce critère extérieur qui fait que nous reconnaissons un acte délibéré. Il y a une phénoménologie intérieure, mais aussi extérieure. Nous savons quand quelqu'un cherche à obtenir un résultat, notamment une action entre les êtres humains, et nous devons les juger à travers le critère de la morale. Pourtant, il n'est pas toujours si simple de juger des intentions, de juger du secret des cœurs. Et on devrait trembler aussi en jugeant des intentions, en essayant de culpabiliser des actes, en essayant d'inculper ou de disculper des êtres humains. Le droit a besoin du concept rigide de l'intention, d'établir l'intentionnalité par des preuves. Il y aura des indices qui diront que l'acte était prémédité, qu'il était rationnel, qu'il était non pas l'objet d'une passion, mais qu'il était l'objet au moins d'une représentation un peu maîtrisée par le sujet, avec cette volonté délibérée de produire, par exemple, cette mort ou cette destruction. Le droit doit donc établir l'intention avant d'en juger. Mais au-delà du droit et de la morale, il y a évidemment ces relations intimes qui font que nous ressentons les intentions d'autrui, qu'elles construisent les nôtres, que les intentions des sujets qui se prêtent attention mutuellement à ce qu'ils se veulent de bien ou de mal les uns aux autres, sont le tissu de la vie morale. La vie morale n'est pas construite seulement sur les effets, mais bien entendu sur les sources de ces effets entre nous. Nous ne jugeons pas seulement, d'une manière utilitariste et nécessaire, des avantages et des bénéfices, mais aussi des bonnes ou des mauvaises intentions. Comme on dit aussi, quand on nous fait un cadeau, ce n'est pas l'importance du cadeau qui compte, et au cœur du don, c'est très important, c'est, comme on dit, l'intention qui compte.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast par l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Marie-Claire Oumabadi. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Nassim El-Kabli, Corinne Amar et Victoire Mellet. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité !